Le voyage à Samoa, chapitre 4, Ceylan, Colombo, Candy, 5-10 novembre 1901. Je reprends ici mon journal, que j'ai dû interrompre bien à contre-cœur, tant j'ai de choses à faire et à voir. Arrivé à Ceylan, 5 novembre, midi et demi. Depuis 11 heures, on voit surgir à l'est des nuages bleuâtres, des pics de brume, des masses plus épaisses que les vapeurs qui traînent au-dessus de l'horizon. Ce ciel de l'océan Indien, sous la mousson du nord-est, a un nombre infini de plans. À l'ouest, des nuages épais sont véritablement bleus, du bleu indigo que devrait avoir le ciel pur d'Extrême-Orient. Tout le tour de la mer est une bande sombre, et au-dessus, divisés comme des flocons de laine nuancés, troués dans leurs intervalles d'air bleu, des nuages violets, pourpres, laiteux, roses d'aurore, déchiquetés, pailletés et feuillés. Au-dessous, une mer grise, jaune, verdâtre, morne et terriblement plombée sous la chaleur humide qui pèse de plus en plus. En sortant de déjeuner, voici de nouveau la même apparition qu'à l'île de Minicoy. Une ligne d'écume contre une barrière jaune d'or et, au-dessus, l'éventail grêle et vert qui se déploie sur la tête des cocotiers. Au-delà, des masses vert sombre, comme baignées de vapeur chaude, une verdure forte, moite et tiède, vers laquelle glisse la ville de la Ciotat. L'horrible fracas du treuil, parmi lequel le battement de l'hélice se perd, si bien que le vaisseau semble planer sur l'eau parmi des aboiements d'airain. Maintenant apparaissent des docks et des maisons rouges, des masses de charbon sous des hangars, des ponts sur des pilotis, une multitude immense de grands vaisseaux immobiles qui encombrent la mer. Et au large, de place en place, la voile rouge carrée de ces boutres arabes ou hindous qui sortent, poussés par la mousson, sans laquelle ils ne savent pas louvoyer. Plus près, dans l'air, d'énormes mouettes aux couleurs inconnues qui tournoient, une nuée de corbeaux qui croassent. Sur l'eau, une foule de petits noirs, le pagne mouillé passé entre les jambes, accroupi sur deux poutres jointes, maniant une pagaie à balancier, parmi des cris assourdissants de « À la mer! À la mer! À la mer !» et le hurlement périodique de « Tararaboum de haïe !» On entend rouler comme un cri continu « À la mer! À la mer! À la mer! À la mer !» Il va falloir débarquer. Je prends congé de mes compagnons de voyage. Tous nos bagages sont entassés tant bien que mal dans une sorte de pirogue indigène, car Colombo est une rade foraine et les vaisseaux ne touchent pas à quai. Nous abordons à une longue estacade et nous passons entre deux haies de cingalais multicolores. Le préposé noir des douanes me fait payer 9 roupies pour mon fusil et mon revolver, et nous sommes sur la terre rouge de Colombo. La route est rouge, les maisons de style oriental blanches ou rouges, la lumière aveuglante, et la chaleur humide me fond en eau. Heureusement, le grand hôtel oriental est là, presque en face. Un tumulte de Cingalais, d'Hindous, de Tamouls, de Malais, de Musulmans. Les Cingalais, avec leurs longs cheveux noirs, leurs yeux sauvages et leurs diadèmes d'écailles. Les Hindous, en turbans rouges rayés ou blancs. Les tamouls, avec une tache bleue au milieu du front. Quand ils s'habillent, cette tache tatouée est couverte de poudre d'or. D'autres tamouls, de castes plus basses, au front barré de lignes blanches ou entièrement barbouillé de craie, la moitié de la tête rasée. Les femmes tamouls, avec des colliers de perles blanches, rouges et d'or, des fleurons d'argent tressés dans les ailes du nez, des bagues aux doigts de pied, les oreilles percées de larges trous, d'où pendent des anneaux attachés à des cordelettes. Les malais, avec un turban ou une petite toque. Des musulmans pieux, la tête complètement rase, coiffés d'un haut chapeau fait d'un tissu dur de soie orange à dessins géométriques rouges. D'autres d'un tarbouche et semblant affublés d'un moule à glace. L'hôtel avec une grande véranda ouverte, où s'étale une rangée de fauteuils profonds de paille tressée à longs bras de bois sur lesquels on allonge les jambes. Au-dessus de la tête, un ventilateur électrique tourne rapidement sans bruit. Des boys noirs, toujours noirs, vêtus de blanc, veste blanche, jupe blanche. Et tout ce monde pieds nus. Chaleur terrible et qui me dissout. Les gênes rickshas vous assaillent. Ce sont des voiturettes à deux hautes roues et qui basculent sur deux longs brancards entre lesquels l'homme court comme un cheval. Traîne la voiture et fait deux lieues, toujours courant, avec la sueur qui coule sur sa peau noire. C'est révoltant. Il me semble que je me fais traîner par des yahous et que je suis un yahou d'une espèce pire. Les infortunés vous supplient de monter, vous harcèlent, vous expliquent que leur rickshaw n'est pas chinois, qu'il a été fait à Colombo, qu'ils vous mèneront partout. Il me faut trois costumes blancs. Ce que j'ai acheté à Port Saïd, horrible camelot, est en lambeaux. Puis j'ai à passer chez Cook et chez Monsieur F., directeur du Ceylon Observer. C'est un bureau de journal comme les nôtres, avec tout le tumulte des apprentis d'imprimerie, des morasses, des dépêches sur feuilles volantes. Seulement, les rédacteurs n'ont que le pantalon et la chemise, et le ventilateur électrique tourne sur nos têtes. Monsieur F. n'est pas là. Et il part pour l'Inde demain. Son fils me reçoit très gracieusement, mais il n'est pas brillant. Depuis, le père F. m'a envoyé l'annuaire de Ceylan qu'il rédige, et Madame F. m'a prié de venir dîner. Mais je partais pour Kandy. Le lendemain, tous les journaux locaux annonçaient triomphalement mon arrivée, et les marchands me suppliaient de leur laisser ma carte. Enfin, le jeune F. me prie d'écrire pour son journal un éditorial sur le différend franco-turc. Il m'offre le prix généreux de 15 roupies, une livre. Je crois que je n'accepterai pas. Les commis des joailliers vous relancent sans relâche sous la véranda de l'hôtel. Il faut céder. Pierres précieuses sans nombre, surtout des œils de chat et des alexandrites. Les rubis sont trop clairs, les saphirs trop noirs. Les pierres de lune admirables, mais sans valeur. Et les perles viennent d'Australie. Mais tout cela est très cher, et il est impossible de connaître la densité des pierres qu'on vous offre. Car le rubis de Ceylan a le même poids atomique que le saphir blanc. Les rubis étoilés sont curieux, mais sauf d'énormes œils de chat et une très belle opale, non singalaise, je n'ai rien vu de mieux que ton saphir étoilé. Par exemple, je suis tombée du premier coup sur le marchand qui l'a vendu. Tous ces joailliers qui se font donner des certificats ont les mains pleines d'attestations signées J.C. M. Il paraît que ce bon M faisait un petit commerce de pierres qu'il achetait ici et qu'il revendait à Calcutta ou à Bombay. Jenriksha sur l'esplanade, qu'on appelle Galefas, et au marché. Les couleurs de Galefas, sous ce ciel de métal sombre, sont surprenantes. La route rouge sombre entre des pelouses vertes. Les touffes de cocotiers et de palmiers royaux, d'arbres verts noirs où scintillent des fleurs de feu. À droite, contre les trois liserés verts, entre le rouge sombre de la route et le verdoiement sinistre de la mer, une bande de sable jaune-orange. Contre toute cette ligne, les lames se brisent incessamment avec un fracas morne, et les touffes d'écume s'éparpillent dans l'air. L'océan Indien, vert d'un glauque opaque, le ciel lourd tout près de lui, l'horizon comme surélevé, sans impression d'infini. Et l'œil est captivé par ces trois couleurs, vertes, rouge et jaune, comme mêlées de ténèbres avec un liseré d'écume. Le marché, incroyablement d'Orient, avec ses tas de noix de coco fraîches, vert jaune ou orangé, ou brunes et fibreuses, ou vertes décortiquées. Les auvents chargés de grappes de bananes bleues de Prusse ou jaunes. Ces sacs de toile marron bourrés de riz et les papayes vertes comme des melons d'eau taillés dans de l'émeraude. Et le blanc de coco râpé et les feuilles pliées où se vend la noix de bétel hachée. Et les chiens cingalés aux poils ras, à la queue et aux oreilles de chacal, le museau pointu, plongé dans une demi-noix de coco parmi la crème blanche. Les joailliers faisant leur filigrane d'argent, les barbiers à genoux, rasant sur le seuil la tête du client accroupi. Les femmes pouillant les longs cheveux de leurs enfants nus, les jeunes hommes pouillant les vieillards. Tout cela sous la pluie fine, parmi des cris cingalés et tamouls. Le soir, dîner avec le curry. 7 ingrédients différents dans le riz, parmi lesquels poisson sec et coco râpé. Bananes bleues, concombres et gâteaux de riz au lait de coco, frits dans l'huile de palmier. Et après, avec les officiers du bord, longue course dans la nuit en jenriksha, vers une maison où il y a des cingalaises. Un bouge où, par un escalier tremblant, nous arrivons dans une soupente. Là se pressent 5 affreuses femmes noires au crâne déprimé, sous l'œil féroce d'un patron cingalais, œil jaune et noir. L'homme, nu sauf le pagne, a un torse redoutable. Une bouteille de bière coûte 2 roupies. Nous la payons, cela suffit à ces messieurs. Il va sans dire que je n'ai pas d'objection. Nuit dans une chambre ouverte par 3 baies sur le ciel et sur les lacs où roule le cri des grenouilles. On transpire sans effort sous la moustiquaire et cette chaleur excite la sueur sans même qu'on s'en doute. Jenriksha, le matin, a un temple hindou, fait de ciment blanc dans une ruelle hideusement bariolée. L'un des prêtres nettoie les clous de cuivre de la porte. Je n'ai pas le droit de franchir le seuil. À l'intérieur, une horrible musique de démons, faite de cymbales, de tam-tam, de cornes. Vaguement, par les ténèbres, on voit les formes monstrueusement dorées et rouges de Vishnu, de Shiva et du dieu éléphant Ganesha. Jenriksha, l'après-midi, à Mount Lavinia, pointe de la baie de Colombo. J'appelle après-midi 9 heures du matin, car je me suis levée à 5 heures. La route me surprend à chaque pas. Les cocotiers en bouquet, les acacias, les bananiers, l'arbre Jacques avec ses longs fruits verts maroquinés, l'arbre à pin avec ses énormes pendeloques, le jasmin espagnol, la fleur de Bouddha au calice fait de 5 pétales tachés à l'extérieur d'une traînée rose, d'un blanc lourd disposés en spirale et rentrant l'un dans l'autre comme des écailles de nacre, le fond de la corolle orangée exhalant un parfum d'encens chaud. La fleur rouge d'hibiscus qui laisse pendre un long pistil comme une langue mince et rosée et qui est la boucle d'oreille des femmes dans les mers australes. Un autre arbre dont les graines rouges sont dures et luisantes comme du corail. Les bananiers en fruits, les bananiers en fleurs fanées pendant comme un gros artichaut violet. Et partout, des huttes et des boutiques avec les gâteaux frits, les flacons pleins de sucre de coco, les petits paquets de bétel dans les feuilles, avec ça et là la flamme orange d'un king cocoa nut. Toujours des femmes pouillant des enfants. Et sur la route, des petits noirs et des petites noires qui lancent des fleurs dans mon rickshaw. L'une me poursuit pendant 2 kilomètres. D'abord, elle supplie. « Aïe bonne, papa! Aïe bonne, maman! Moi plus père, moi plus mère! Toi, père à moi! Toi, toi, donnez manger à moi! Toi, argent dans poche! Aïe bonne, papa! Aïe bonne, maman !» Puis, aïe bonne, salut cingalais, se fait menaçant. La petite figure est froissée de fureur. Aïbonne est un aboi. Puis la supplication recommence, interrompue par un aboi impérieux. J'ai le bras meurtri, pincé. Le coureur de mon rickshaw me dit de la frapper. Outre que c'est puni d'une amende de 10 roupies, la chose me répugne. Cependant je lève ma canne. L'enfant recule comme un chien et se rue de nouveau. Alors j'arrête le rickshaw et je donne des cents à d'autres pauvres, elle exclut. Elle gronde comme un chien fouetté, puis reprend. « Aïe bonne, papa! Aïe bonne, maman! Toi, argent d'empoche! Toi, donnez-moi !» Je lui montre alors un chien cingalais et lui dis « Va demander au chien, lui aussi a de l'argent dans sa poche !» Alors l'enfant s'arrête net, me regarde dans les yeux, comprend que je me moque d'elle et fuit en me criant d'une voix dure « You very bad man !» Mante Lavinia, quel spectacle! L'hôtel sur la falaise, avec son salon aux larges portes-fenêtres ouvertes sur la mer. Une nappe vert sombre battant les récifs de corail d'une battue écumante et monotone. Son profond comme d'une cloche liquide. Encore le curry et le papaye. Fruits melons à la chair orange, faites de pommade douce et qu'on mange après le repas pour digérer. Chose singulière, à l'aide du papaye, on digère tout. Les concombres, le poulet dur, le beurre rance, l'effroyable épice du curry et de ses ingrédients, et la cuisine au coco et à l'huile de palme. Le coureur de mon jeune rickshaw m'a trouvé un jeune cingalais qui vit là, sauvage, dans la forêt de cocotiers, pour me mener à l'hôpital des bourgs. Nous gravissons une pente et, derrière un bananier, je cause longuement avec un burger du Vristat qui s'appelle Jacobs. Ils sont là 250, en convalescence, sous la garde d'un sergent et d'un caporal qui nous tournent le dos. De cela, je te reparlerai. Maintenant, une longue marche dans la forêt sans branches, mais obscure de troncs, sous le soleil de midi. Un temple de Bouddha avec les peintures de l'enfer. Ces peintures sont récentes. Aussi, le démon femelle qui tente le prince est-il coiffé d'une galette à plumes d'autruche posée à la cascadeuse. Le prince a de belles moustaches et la royale. Premier tableau, la femme tente. Deuxième tableau, au moment de la réalisation, elle est un démon bleu à gueule rouge qui déchire, brûle ou dévore le pauvre pécheur. Les avares sont étendus, liés, et on leur verse dans la bouche du métal fondu. Ceux d'une caste inférieure, qui ont blasphémé ceux d'une caste supérieure, ont la langue percée par d'horribles instruments, aussi ceux qui ont blasphémé des prêtres. Bouddha assis est protégé contre la pluie par un cobra qui a enflé sa gorge pour lui en faire un capuchon. Enfin, le Bouddha futur, le Messie, le Bodhisattva qui doit naître, trône dans un coin, mystérieusement. Route de retour par la forêt. Je transpire affreusement. Le jeune Cingalais qui me guide a une beauté sauvage. Il a 16 ans. Son père, me dit-il, a une grande plantation de cocotiers et il est très riche. Mais l'enfant s'est sauvé de la maison depuis 6 ans. Il fuyait l'école pour aller jouer dans la cour du quartier des soldats sikhs. Un jour, son père l'avait battu pour le punir. Jamais l'enfant n'a pardonné. Et depuis, quoique sa mère tâche de lui envoyer de l'argent, il le refuse et il erre comme une bête sauvage dans la forêt de Mount Lavinia, avec une affection d'animal meurtri pour les prisonniers bourgs. Il m'écrit son nom en cingalais. Il s'appelle Hermanis Gomis. Ce jour-là, j'ai été surpris. Maintenant, je sais. Tous les noms des cingalais sont portugais. Les esclaves prenaient jadis le nom des maîtres. L'île est pleine de Pereira. Tu recevras même une lettre d'un petit Pereira, James Pereira, qui m'a abrité sous son parapluie comme j'allais au Rock Temple, Galviara de Candy. L'enfant, qui ne sait pas son âge, sortait de l'école bouddhiste avec ses livres sous le bras. Il est catholique, mais son père est bouddhiste, sans doute catholique renégat. Je te reparlerai de ceci. Le petit James Pereira, tout à coup, sous la pluie, m'a demandé si j'avais des timbres français. Il en fait collection. Puis il m'a supplié de lui permettre de m'écrire. Si tu reçois une lettre, envoie de vieux timbres à ce petit cingalais. Les métis portent le nom de Burger et sont supposés descendre des colons hollandais qui occupaient Ceylan avant les Anglais. Il y a donc ici des burgers au nom portugais. Très peu de vrais burgers blancs, non mêlés. Ici, à Candy, 3 ou 4. Je t'en reparlerai aussi. Retour de Lavinia. Mon coureur est à moule et porte le point bleu au front. Moi, homme très bon, me crie-t-il, jamais mangé bœuf, jamais mouton, jamais même œuf, toujours légumes. Et lorsque je l'interroge sur son tatouage, il répond fièrement, That is my caste. C'est ici qu'on plonge les mains dans le chaos d'où se font les religions, qu'on touche avec le doigt la passion et la fureur de croire. Qu'on voit sous ses yeux ce qui n'était que mots, caste, religion, race, croyance, prosélytisme, dévotion. Cela fait partie de l'homme comme la faim et la soif. Ici seulement le mot de Jésus est profondément vrai. L'homme ne vit pas seulement de pain. La première question que me posent les indigènes, quelle est ma religion ? » Et Cassim, mon guide malais, parlant des hindous, disait « Ils verront quand ils seront morts. » Sur ce retour de Lavinia, je m'arrête. Je te parlerai de mon voyage à Kandy, de mon séjour à Queen's Hotel, chez le beau-frère de la baronne de R, des officiers français prisonniers à Kandy, et surtout de Kandy, de son lac et du jardin de Peradeniya, la perle du monde. Peut-être ce bavardage pourra-t-il t'amuser. Tu vois, je te dis tout, absolument tout. Je m'embarque lundi sur le Polynésien. L'agent des messageries me promet que j'y aurai une bonne cabine.